Pascal Pierre Garbarini. Nous évoquerons la justice parce qu'il y a beaucoup de sujets, figurez-vous, qui nous ramènent à ce sujet qui nous passionne et sur lequel vous êtes toujours passionnant et ou intéressant à écouter, cher Philippe Bilger. Mais il va être 9h et tous les matins, désormais, à 9h, nous écoutons Alice Sommerer à 9h pile qui nous rappelle les titres.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. On commence ce journal évidemment avec la situation en Iran. Le pouvoir judiciaire iranien a assuré que le manifestant Erfan Zoltani n'aurait pas été exécuté. Le ministre iranien avait pourtant des affaires étrangères, avait annoncé qu'il n'y aurait pas d'exécution par pendaison ni hier ni aujourd'hui. Donald Trump, de son côté, affirme que les tueries ont pris fin. Néanmoins, il maintient le flou sur une éventuelle intervention militaire américaine. Autre actualité internationale, une quinzaine de soldats français sont arrivés au Groenland. Ce sont des chasseurs alpins. C'est ce qu'a annoncé Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur pour les pôles. Emmanuel Macron a annoncé qu'il participe à l'opération Endurance Arctique. La Suède, l'Allemagne et la Norvège en font aussi partie. De son côté, Donald Trump assure que le Danemark ne peut rien faire sans lui contre la Russie et la Chine. Cette nuit, la capitale a été le théâtre de nouvelles échauffourées après la victoire du Maroc face au Nigeria en Cannes. Les supporters marocains sont descendus sur les Champs-Élysées. Les forces de l'ordre les ont dispersés en utilisant des gaz lacrymogènes. Ils étaient plusieurs centaines rassemblés pour célébrer la qualification du Maroc en finale. Le droit de grève dans les transports pourrait être encadré. Les députés ont approuvé en commission une proposition de loi. Elle vise à limiter les grèves sur certaines périodes de l'année. Concrètement, le gouvernement pourrait fixer jusqu'à 30 jours par an durant lesquels les agents indispensables au fonctionnement des trains ne pourraient pas faire grève. Ça concerne notamment les vacances scolaires ou les grands événements. Le débat arrive dans l'hémicycle le 22 janvier prochain. 4 astronautes ont quitté la Station spatiale internationale plusieurs semaines avant la date prévue. Un problème de santé a touché l'un des membres de l'équipage. Selon la NASA, il ne s'agit pas d'une évacuation d'urgence. L'état de l'astronaute concerné est jugé stable, mais ce retour anticipé reste une situation inédite dans l'histoire de l'ISS. Et puis pour finir, attention à la grippe. Santé publique France appelle à la vigilance après un bref reflux à la fin de l'année 2025. L'épidémie est portée notamment par les enfants. Les autorités sanitaires appellent, alertent sur un possible impact dans les semaines à venir. Les consultations, elles, repartent à la hausse et les hospitalisations commencent déjà à augmenter chez les plus jeunes.
Merci beaucoup Alice et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 10h pour l'heure des pros, jusqu'à 10h30 pour sur CNews sur l'heure des pros. Bienvenue à tous dans le procès de Marine Le Pen en appel. Le parquet général a changé de position. Il considère que plusieurs contrats d'assistants parlementaires pour lesquels Marine Le Pen a été condamnée ne posent pas de soucis au regard du droit. Je résume. Je suis souvent étonné qu'entre la première instance et l'appel, les jugements soient différents. Ce sont les mêmes faits et ils sont interprétés différemment. Quand je dis je suis étonné, non. Les faits sont examinés par des hommes et selon leurs critères, leur expérience, leur sensibilité, ils posent un avis personnel, donc subjectif, sur chaque dossier. Encore s'agit-il des juges. Mais là, c'est le parquet. C'est l'accusation. On pourrait imaginer qu'entre le tribunal correctionnel qui a jugé et condamné Marine Le Pen et la cour d'appel, le parquet tienne la même ligne. Autrement, c'est pile ou face. Eh bien, c'est pile ou face. Le parquet change de ligne, et c'est tout à son honneur d'ailleurs, mais le parquet dit au tribunal de première instance, vous avez mal fait votre job. C'est en tout cas comme cela que je l'interprète. J'entendais ce matin que 64% des Français ont le sentiment que la justice est partiale. La justice est humaine et les hommes sont les hommes. J'entendais aussi que le procureur général d'Aix-en-Provence a expliqué lundi soir que cette année, sa cour d'appel va remettre en liberté 19 accusés criminels faute de pouvoir être jugés dans les délais légaux. Des procès pour viol qu'on annule parce qu'on a des délais de 75 mois. 75 mois, c'est plus de 6 ans. Vous imaginez ce que pensent les victimes. 2026, c'est l'année où nous nous apprêtons à libérer des détenus criminels faute de pouvoir les juger dans les temps. Je reprends les paroles du procureur d'Aix-en-Provence. Question donc pour la justice ce matin. Et nous en parlons avec nos éditorialistes. Et je salue donc Maïalène Trémollet, que vous connaissez désormais, journaliste politique d'Europe 1, Maître Pascal-Pierre Garbarini, Richard Millet, Philippe Bilger et Thomas Bonnet. Je trouve que ce sont des sujets évidemment passionnants. Et on va commencer par le Rassemblement national et ce changement de position, je le répète, du parquet qui n'est pas si fréquent. Philippe Bilger.
Vous avez raison, c'est assez rare, même si moi-même, comme ministère public, je n'ai jamais hésité à changer de position parce que c'est le gage de la liberté qu'on doit avoir à l'audience ou ailleurs. Mais c'est bien que le parquet général, en l'occurrence, ait adopté une position qui lui paraît plus pertinente sur le plan juridique, ça me paraît très bien.
Mais je conteste pas. Je
vous assure,
je ne fais aucun procès à la justice. Aucun.
Mais j'ai cru comprendre que vous discutiez parfois que l'appel permettait une approche différente de la première instance.
Je ne fais aucun procès à personne. Je sais que c'est comme ça parce que ce sont des hommes. Je dis simplement que les conséquences, et on le voit bien avec Marine Le Pen, parce que là, ça change tout. C'est que Marine Le Pen, elle a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Elle en a déjà fait un quasiment, nous sommes d'accord. Si elle est condamnée la prochaine fois, par exemple, à 2 ans d'inéligibilité, au lieu de 5, parce qu'on considère qu'il y a moins d'affaires, on peut considérer cela, c'est un raisonnement juridique qu'on peut avoir, ça veut dire qu'elle peut se présenter à l'élection présidentielle. Il se trouve qu'elle est la favorite. Comprenez que une personne toute seule, en l'occurrence la présidente du tribunal de correctionnel, a le pouvoir de changer une élection présidentielle. Donc c'est ça que je souligne, ni plus ni moins. Écoutez Célia Barotte, qui était hier au deuxième jour d'audience du procès, et après on en parle également avec Pascal-Pierre Garbarini.
Cette deuxième journée d'audience a connu un moment important pour la défense de Marine Le Pen, puisque l'avocat général a reconnu que le traitement fait au début du procès de première instance visant à réintégrer des contrats qui n'avaient jamais été visés dans l'ordonnance de renvoi était un mauvais traitement et le parquet général, comme les avocats de Marine Le Pen, ont demandé à redéfinir le périmètre des poursuites. Je vous propose d'écouter Maître Bosselu en sortie d'audience.
En prenant la parole, j'ai manifesté une émotion certaine. C'est un soulagement et c'est ce soulagement que je note aujourd'hui. Les choses sont appréhendées avec beaucoup plus de sérénité et moins d'hostilité.
Le cas d'un autre prévenu a également été évoqué par les magistrats et par les différentes parties, celui de Louis Alliot. Sa défense demande à ce qu'il soit jugé dans un autre procès organisé après les élections municipales. Une demande fondée par son avocate, notamment sur le principe, je cite, de l'atteinte à la sincérité du scrutin. Mais pour le parquet général, il s'agit, je cite, d'une demande dépourvue de sérieux, juridiquement non fondée et contraire aux exigences les plus élémentaires de la bonne administration de la justice. Le délibéré sur l'ensemble de ces questions procédurales est attendu ce jeudi lors de la reprise des débats.
Conséquences sur des sujets que moi je trouve dérisoires, parce que de savoir si un assistant parlementaire a travaillé pour Bruxelles ou pour Paris dans le cadre du Rassemblement national, je trouve ça déjà dérisoire, pour tout vous dire. Je pense que la justice a autre chose qu'à perdre son temps, des années, des magistrats pour travailler sur des sujets que je trouve, et je vous avais entendu cette expression, de corne-cul. Voilà ce que je pense, alors qu'il y a des choses plus importantes. Et j'apprends dans le même temps qu'il y a 75 criminels qui vont sortir parce qu'on ne peut pas les juger. Ben, si le temps qu'on passe à aller chercher sur des histoires dérisoires ou politiques pour, pourquoi pas, mettre en examen et juger des politiques, si on le faisait pour des criminels, ça me paraît infiniment plus important. Mais ce n'est que mon modeste avis. Pascal-Pierre Garbarini.
Ce qui a été décidé hier, pour moi, il y a deux enseignements. Le premier, c'est que, quelque part, la justice fonctionne.
Oui.
C'est qu'on a prévu donc une première instance, voilà, et il y a le droit d'appel, et le droit d'appel fait que les cartes sont rebattues, et il y a une interprétation différente qui est faite par le parquet. Maintenant, attendons la décision de la Cour, quand même. Le deuxième enseignement, et encore une fois, pardon de remettre une pièce dans le jukebox, comme on dit aujourd'hui, c'est pourquoi l'exécution provisoire ? Donc, face à une situation, rien ne l'a justifié, l'exécution provisoire. Rien. Donc, en mettant l'exécution provisoire qui a déchaîné toute cette polémique légitime, face à une situation comme celle-ci où il n'y a pas de trouble à l'ordre public, j'arrête pas de le dire, le trouble à l'ordre public n'existe pas en matière correctionnelle. Nous sommes en matière correctionnelle. Bon, donc, dans cette situation-là, c'est incompréhensible que les magistrats en première instance aient pris cette décision de l'exécution provisoire. Premièrement, idem pour l'inéligibilité. L'inéligibilité, elle a été prononcée de droit en 2016, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel. En 2017, il y a eu une nouvelle loi qui est intervenue avec une virgule qui disait « mais il est possible, compte tenu de la personnalisation, de la personne du prévenu et de la complexité des faits, que le tribunal motive ou la juridiction motive pour que la peine d'éligibilité ne soit pas prononcée là et pour qu'elle ne soit pas donc de droit. C'est l'exception qui a fait que la loi a été validée. Pourquoi on ne n'attend pas ?
Vous avez une présidente qui avait pris la parole et je crois que de mémoire la présidente avait dit que Marine Le Pen constituait un trouble à l'ordre public avec des propos
à la démocratique
qui avait été jugé politique. Mayalène Trémollet.
Moi, je pense que, indépendamment de ce que dira la Cour d'appel ce matin, c'est quand même une petite victoire politique pour Marine Le Pen. Et je suis d'accord avec vous, ça veut dire qu'elle aura vraiment droit, pendant ce procès en appel, à une seconde lecture de son dossier. Et c'est exactement ce qu'espère le Rassemblement National, qui a d'ailleurs un peu changé de braquet sur sa défense. Mmh. Marine Le Pen a désormais deux avocats. Et ils ont dit eux-mêmes qu'ils allaient se concentrer sur les questions juridiques de fond pour essayer, pourquoi pas, d'alléger la peine, comme ce que vous disiez, pour ramener l'inéligibilité potentiellement à moins de deux ans et ainsi pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Donc c'est exactement ce que souhaitaient Marine Le Pen et ses avocats, ce qui est en train de se passer.
Et je fais juste une parenthèse, je vous ai souvent dit que je lisais Mediapart, et comme on est dans un système aujourd'hui en France où même les journalistes sont parfois des militants, pas tous bien sûr, Mediapart n'a pas fait un sujet sur le procès Rassemblement National, alors que Mediapart en faisait un par jour quand la thèse du parquet l'arrangeait, manifestement. Donc c'est ça aussi...
Il y a eu un article dans Mediapart, je crois.
Écoutez, donc c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se parler les uns les autres, il y a une sorte d'incommunicabilité entre les uns et les autres. La manière dont était mise en perspective le jugement de Madame Le Pen, c'est elle a pris 4,5 millions dans la caisse, t'avais l'impression qu'elle était partie avec de l'argent. Donc tout ça n'est pas convenable, mais en plus, les gens décodent et c'est contre-productif.
Absolument, il y a quelque chose de très moral dans ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau de la Cour d'appel, parce que le jugement, vous l'avez rappelé, Maître Garbarini, il y a un passage de ce jugement que j'ai trouvé totalement scandaleux, c'est lorsqu'il aborde le problème politique pour justifier les sanctions que vous avez évoquées. Et donc, tôt ou tard, on paye la rançon d'une approche qui n'est pas véritablement juridique, mais partisane. Donc là, il y a une morale.
Et je rebondis là-dessus.
Pascal Pierre Garbarini.
Je rebondis là-dessus. Vous avez évoqué le sondage où les Français considèrent qu'à 64% que la justice n'est pas impartiale. Eh bien, ce jugement-là, pour les personnes qui ne sont pas avisées, c'est-à-dire, et encore une fois, il n'y a pas du tout, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être élitiste, c'est pas ça, mais les personnes qui ne sont pas avisées du problème du degré de juridiction, de la motivation, etc., pour eux, c'est incompréhensible qu'il y ait l'accusation qui, en première instance, monte au créneau, etc., avec un jugement très dur, très sévère, et puis on arrive en appel, on dit, non, en fait, c'est pas bien jugé, etc. Nous, on le comprend parce que c'est le second degré juridiction, mais pour la population d'une manière générale, ça fait les 64%.
Richard Millet, c'est pour ça que le seul conseil qu'on peut donner aux uns et aux autres, c'est Olivier Guichard l'avait dit, ministre garde des Sceaux, de ne jamais avoir affaire à la justice. Mais c'est pas le problème de la justice que je remets en cause. Ce sont tout simplement les hommes. Oui. On n'y peut rien, c'est comme ça. Vous pouvez toujours tomber sur un juge incompétent.
Oui,
ça arrive, il y en a. T'as pas de chance dans ces cas-là.
On peut espérer tout de même que la justice peut être parfois indépendante des subjectivités personnelles.
Oui, mais moi, je voudrais effectivement, dans ces cas-là, rationaliser par les preuves. Si t'as pas de preuves,
oui, mais
je suis désolé de vous les... Mais si,
mais vous
moi,
avez
je suis
raison.
Sur la... comment dire, si t'as pas de preuves, et on peut reparler d'un dossier célèbre sur lequel nous avons souvent échangé, si t'as pas de preuves, la construction intellectuelle, je la mets de côté. Je suis désolé de vous le dire.
Mais il y a toutes sortes de preuves, mon cher.
Non, oui, bah, non,
il y a pas.
Mais non, je veux dire, il y a pas toutes sortes de preuves, justement.
Je suis frappé de voir lorsqu'on a une approche.
Il y a toutes sortes de preuves.
Lorsqu'on a une approche partisane d'une affaire judiciaire, eh bien, généralement, on trouve qu'il y a pas de preuves.
Mais c'est pour ça que le mot victoire est peut-être pas approprié, parce que dans l'affaire à laquelle vous faites référence, trois des quatre chefs d'accusation étaient tombés, et pourtant, la condamnation avait été particulièrement lourde.
Oui.
Et moi, je rappelle juste la phrase, parce que vous l'avez fait référence, une procureure, lors du procès en première instance, parlant d'un autre prévenu, pas de Marine Le Pen, d'un autre prévenu, avait dit « Je pourrais prononcer la relaxe, mais ça me fait mal ». Donc en fait, on a l'impression parfois, et ça rejoint le sondage, que peu importe les éléments concrets, Richard, il y a l'interprétation qui prend le dessus.
Richard Millet, prévenu Jalk.
Pardon ?
Non, il s'appelait Jalk, celui dont parle...
Le prévenu en question.
Bon, Thomas.
Monsieur Millet.
Je voulais simplement demander aux deux techniciens de la justice qui sont là. J'avais entendu mardi un argument selon lequel Bruxelles, la commission de Bruxelles, aurait pu, comment dirais-je, s'apercevoir qu'il y avait une irrégularité dans cette affaire de, comment ça s'appelle,
d'assistant parlementaire.
D'assistant, et donc ne pas judiciariser la chose.
C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je trouve que déjà l'affaire, je la trouve dérisoire. Je peux pas vous dire autre chose. C'est-à-dire que les conséquences d'empêcher celle qui est favorite à une élection présidentielle parce que on a mis un système où on faisait travailler des assistants parlementaires, je trouve ça dérisoire. Mais
je considère que rien n'est dérisoire de ce qui touche la morale.
Bon, enfin, il n'y a pas de problème. Enfin, vous savez comment ça se passe.
Dans ce
sont des assistants parlementaires. Ils travaillent, évidemment, doute que quand ils étaient à Bruxelles, ils travaillaient aussi un peu pour le mouvement. Il n'y a pas de... Comment dire, ça ne me choque pas sur le point de la morale. Il y a des choses vraiment qui peuvent me choquer.
C'était pour répondre à l'adjectif dérisoire.
Alors, autre chose, effectivement, de la justice, c'est le procureur de Marseille, le procureur d'Aix-en-Provence qui le dit. 19 accusés criminels, faute de pouvoir être jugé dans les délais légaux.
Mais rappelez-moi.
Alors vous qui êtes avocat, ça doit vous réjouir.
Rien ne me réjouit.
Si vous avez un client.
Oui, mais je préfère le faire sortir grâce à moi. Grâce à des délais qui sont pas respectés.
Si vous multipliez les délais.
Mais
c'est vous qui les avez multipliés.
Le débat, il n'est pas là. C'est que la dernière réforme qui a été faite, la dernière, de création d'une juridiction, c'est la Cour régionale départementale. Régionale ou départementale, ça dépend, sur les viols. Elle est composée que de magistrats professionnels. Donc, on souffre du manque de magistrats, et pour les atteintes, les agressions sexuelles criminelles et les viols, on a confié cela à une cour qui est composée que de magistrats.
Et c'est pas bien ?
Mais justement, on en manque.
Embauchons des magistrats.
Mais il faut les former, les magistrats. Demain, vous n'êtes pas magistrat comme cela. Et puis, arriver pour être magistrat devant une cour d'assises, il faut quand même avoir, on va dire, un certain pédigré.
Par exemple, vous pouvez devenir magistrat demain si vous le souhaitez.
Oui, il faut que je dépose un dossier. Enfin, moi, je ne pense pas qu'il me.
Non, mais par exemple, est-ce qu'on pourrait accélérer que des avocats.
Oui, il y en a beaucoup. Il y a eu une réforme où, je crois, il y a deux ans, il y a 700 personnes venant de la vie civile qui n'étaient pas magistrats et qui n'ont pas subi la formation, mais qui avaient une formation quand même juridique, qui ont été pris. Mais pour vous dire, la situation que nous vivons aujourd'hui, la situation, elle est également faite par des décisions.
Ces 19 accusés criminels, faute de pouvoir être jugés dans les délais légaux, ils seront quand même jugés, rassurez-moi.
Ah oui, mais bon.
Mais ils seront dehors.
Ils seront dehors.
Mais ils seront quand même jugés.
Ah bien sûr, ils seront jugés, bien sûr.
Mais on dépasse le délai de la détention provisoire, parce que c'est un appel.
Alors expliquez entre, l'appel, on ne peut pas rester en détention provisoire indéfiniment lorsqu'on fait appel.
Non, c'est pas ça. C'est que lorsque vous êtes mis en examen et que vous êtes placé en détention provisoire dans le cadre d'une affaire criminelle. L'affaire criminelle, vous avez un délai à passer lequel il y a ce qu'on appelle une détention provisoire qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que lorsque vous êtes mis en examen dans une affaire criminelle, vous avez un mandat de dépôt criminel d'une année. Ensuite, il est renouvelable deux fois. C'est-à-dire, ça fait deux ans. Ensuite, il est encore renouvelable une troisième fois. D'accord ? Ça fait trois ans. passé 3 ans, ce sont des renouvellements exceptionnels à hauteur de 6 mois. Et ça peut aller jusqu'à 4 ans.
Passé
4 ans.
Pas pour tous les crimes. Il y a des crimes où on ne sort jamais, quand même, rassurez-moi.
Non, mais on est en détention pour
une détention.
Ah non, ah non, ah non, vous sortez. Au bout de 4 ans, vous sortez.
Mais même si vous avez assassiné.
Absolument. Que... Pierre-Paul Jacques, vous sortez.
Ouais. C'est au niveau de la détention.
Et oui, c'est parce que vous avez l'obligation.
Mais il faut peut-être changer la loi.
Bah, il faut peut-être changer.
Enfin, un assassin, quand même, qui a fait.
Mais oui, mais d'un autre côté, moi je suis avocat dans le cadre du droit de la défense. Moi là, je défends quelqu'un.
Il n'est pas encore.
Le droit de la défense. Bah, merci, Badinter.
Mais enfin,
pardonnez-moi de le dire comme
non,
ça.
Mais d'un autre côté.
Toute cette politique pénale qui a été mise à partir de 80. Ça n'existait pas avant 80, j'imagine.
Ça, j'en sais rien. Mais moi, d'un autre côté, je vais vous dire quelque chose. Un homme, il a quand même le droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
Oui, vous avez raison.
Ah oui. Hein,
vous
et
avez
un et deux. Vous parlez des gens où les éléments. Alors, pardon, j'en profite, très rapidement. Je pense qu'il est urgent que l'on fasse, comme on le fait en matière correctionnelle, je vais le faire simple, c'est-à-dire le plaidé coupable. Le plaidé coupable qui existe aux États-Unis, on l'a fait en France, c'est-à-dire la reconnaissance de culpabilité. Ça existe en matière correctionnelle, c'est-à-dire justement pour que les tribunaux soient moins chargés. Il faut le faire en matière criminelle.
Ben voilà,
parce que en matière de dossier,
ça c'est de bon sens.
Mais oui, pourquoi ?
Parce que Marini ministre.
Non, pas, non.
Et pourquoi ?
Non. Ce que je veux dire.
D'autres ont dit non avant vous. D'autres avocats ont dit non.
D'ailleurs,
avant vous.
Je crois que vous avez rencontré, vous avez travaillé avec Maître Dupond-Moretti.
Oui, j'ai eu beaucoup de dossiers avec lui. Oui, bien sûr.
Vous aviez le dossier Colonna ensemble.
On a eu le dossier Colonna ensemble.
Et vous êtes croisés, paraît-il, dans Paris.
Oui, on s'est croisé.
Mais il apprécie que vous veniez nous voir ?
Je crois pas.
Il vous l'a dit ?
Il est pas très pro.
Oui, bah c'est pas grave. Et vous lui avez pas dit de venir un matin ?
Je lui ai dit, bien sûr.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Non, je pense qu'il c'est pas du tout sa tasse de thé, si je peux.
Et sa tasse de thé, mais il parle de nous tout le temps. Au moins, il en parlerait de nous sur le plateau, puisqu'il en parle.
Bon, il m'a quand même dit, et je le remercie. Il a comme dit, bon, enfin, tu fais ce que tu veux. Je suis assez content en fait.
Moi, je suis sûr qu'il nous écoute là.
Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, je le salue.
Monsieur Dupond-Moretti, bonne année. Et si vous voulez venir parler de votre magnifique bilan, vous êtes le bienvenu. Bon, on va marquer une pause. Il est 9h21, Richard Millet. Écoutez.
Non mais vous avez raison.
Castigat,
Dylan Dupond-Moretti, Monsieur Hollande. Vous avez lancé beaucoup d'invitations en ce début d'année.
Oui.
Pour l'instant, peu de retours. Le taux n'est pas terrible.
Personne ne m'aime. Ils ne veulent pas venir me voir. Ils ont peur. Mais ils ont... Oui, je trouve qu'ils ont tort. Monsieur Dupond-Moretti devrait venir. On échangerait. Ce serait...
Surtout que là, il pourrait venir. Il n'est plus ministre. Il n'est pas encore avocat.
En plus, c'est quelqu'un qui est d'une grande vivacité intellectuelle, voilà. qui est un rhéteur. Le débat serait...
Est-ce qu'il est gentil, au fond ? Moi, souvent, je pose la question. Est-ce qu'au fond... Parce que, bon, il y a au-delà des postures, parfois, des uns, des autres. Il y a des gens, je pense que c'est... J'en citerai pas, mais je pense que c'est pas des bonnes personnes, c'est des mauvaises personnes. Et moi, j'ai l'impression qu'au fond, il est gentil.
Mais c'est un affectif.
Oui, c'est ça.
Un affectif. Ouais. Il faut le connaître. C'est quelqu'un qui mérite d'être connu parce que c'est un affectif. Ensuite.
Lorsque quelqu'un n'est pas gentil, on dit c'est un affectif.
Non. Mais est-ce qu'il a des. Voilà. Est-ce qu'il est mué par
des bons sentiments ?
Toujours de savoir.
Par des bons sentiments.
Est-ce que c'est au fond d'une bonne personne ? Voilà.
Je pense que c'est une bonne personne. Je pense d'ailleurs, je suis sûr que c'est une bonne personne. C'est un ami, comment dirais-je, sincère et fidèle. En revanche, il a. Je n'ose pas dire qu'il a une armure parce que je reprendrai le titre de mon livre. Mais il a besoin en fait de d'aboyer avant.
Oui, mais moi, ce que je trouvais pas bien et je l'avais vu sur un plateau, c'est d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Ça, j'aime pas ça. Et je trouvais que dans les procès, il fait peur un peu aux gens. Pourquoi vous riez ?
J'adore la formule. Il a besoin d'aboyer avant. Je trouve ça.
On fait de la psychologie, mais bon, écoutez.
Il va m'envoyer un texto, hein, ça c'est sûr.
Mais écoutez, tout ça n'est rien, rien n'est grave.
Quand on pense trop à soi, on est rarement une bonne personne.
Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose.
Oui.
J'avais rencontré quelqu'un qui était un criminel. Et un jour, il me dit, je vais le voir en disant, ouais, mais cette personne-là, je trouve qu'elle est trop gentille. Il m'a dit, maître, n'oubliez jamais, gentil, c'est une qualité. Méchant, c'est un défaut, et je sais de quoi je parle.
Eh bien, moi, je suis d'accord avec vous. Et les gens qui nous écoutent, ils sont tous gentils. Parce qu'autrement, ils ne nous écouteraient pas. À tout de suite.
L'heure des pros, 9h-10h, Pascal Pro sur CNews et Europe 1.
C'est les soldes chez But et le souci avec nos offres jusqu'à moins 50% et le crédit gratuit, c'est que vous risquez de voir les choses en grand.
Chérie, on peut plus traverser le salon.
Mais c'était les soldes.
But et votre maison bat plus fort.
Date selon arrêté préfectoral, coût du crédit pris en charge par votre magasin et sous réserve d'acceptation. Conditions en magasin et sur but.fr.
Lidl, ça vaut le coup. Les émincés de porc origine France à 3,19€ au lieu de 3,99€, à mijoter à votre sauce, ça vaut délicieusement le coup. Bonne nouvelle, avec Lidl Plus, les émincés de porc origine France sont à 3,19€ au lieu de 3,99€, moins 20%. Lidl, ça vaut le coup. 400 grammes, 7,98€ le kilo avec Lidl Plus, 9,98€ le kilo sans origine France. Offre valable jusqu'au 21 janvier.
À tous les motivés, en ce moment, le vélo d'appartement Zipro est à seulement 95,99€ sur Cdiscount.
Ah, une bonne résolution d'accompli.
Il suffit pas de l'avoir, il faut en faire.
Ah, ça, ce sera ma prochaine résolution.
Profitez des soldes sur Cdiscount du 7 janvier au 3 février. Cdiscount, des prix bas qui ont de la voix.
Cdiscount ! Je ne sais plus quoi faire pour qu'il ait des bonnes notes. Il faut que je lui promette un drone maintenant.
Bonjour, je suis Laurent, conseiller Academia. C'est ce que cette maman m'a confié en venant me parler de sa fille Gabrielle. Malgré ses bonnes notes, il fallait encore qu'elle progresse pour le projet d'études qu'elle visait. Avec elle et ses parents, on a convenu que les cours particuliers Academia, avec un enseignant capable de la challenger, étaient la solution pour atteindre ses objectifs. Résultat, plus 4 points de moyenne. Et chez Academia, c'est notre engagement depuis plus de 25 ans.
Academia, le plaisir de réussir.
Renseignez-vous sur academia.fr.
Chez Orange, on sait que le porte-monnaie de Clara pendant les fêtes, il a...
Bien mangé.
Et elle ne serait pas contre ?
Oh, des petites réducs !
C'est pour ça que du 7 janvier au 3 février chez Orange, pendant les soldes, il y a jusqu'à 60% de remise sur une sélection de téléphones neufs et reconditionnés, ainsi que sur des accessoires.
Et ouais, savourez, sans culpabiliser.
Orange est là.
Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 3 février en France métropolitaine et jusqu'au 29 janvier en Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse et Vosges. Conditions détaillées en boutique Orange et sur orange.fr.
On peut penser que les voitures familiales sont réservées aux familles. Ou on peut se dire que les amis, c'est aussi la famille. Nouveau Dacia Jogger, la familiale jusqu'à 7 places réservées à tous. Découvrez-la à partir de 18 700€ pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier. Désormais disponible avec moteur hybride 155 chevaux.
Offre à particulier du 1er au 31 janvier pour Dacia Jogger Essential Eco G120, 9 hors option selon le tarif 2229,02 du 8 janvier 2026. Conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
Chez Maxizo, le bonheur d'un chien commence par un couchage à prix tout doux. Offrez-lui son cocon de confort avec le coussin en velours côtelé Fit & Fun taille S à seulement 7,99€. Rose ou beige, réversible, moelleux et facile à entretenir. C'est l'accessoire parfait pour des siestes réparatrices et à prix mini. Chez Maxizo, offrez-lui tout ce qu'il aime, moins cher. Maxizo, élu marque préférée des Français, catégorie animalerie.
L'heure des pros de retour dans un instant. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur CNews et sur Europe 1.
Europe 1.
On te la raconte, le podcast criminel le plus écouté de France.
Je vais vous raconter une histoire mythique.
Retrouvez On te la raconte en podcast et rien qu'en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, le site et l'application Europe 1.
Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390€ par mois sans apport. Réservez votre essai sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Pensez à covoiturer.
À tous ceux qui, petits, mangeaient leurs endives en se pinçant le nez et en pensant très fort au dessert. À ceux qui les refilaient à la cantine, ton céleri rémoulade contre mes endives au jambon, ok ? Et aux mêmes qui maintenant disent que des petites endives braisées, oh, c'est un délice. Ah, tu devrais essayer, là.
Pour tous ceux qui ont appris à aimer les endives, jusqu'à samedi, Intermarché propose le sachet de 1 kg d'endives Origine France à 1,89€. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur tout le rayon fruits et légumes.
Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1.
On avait dit 2026, fini le superflu.
C'est le cas, Leapmotor T03 électrique.
Et la caméra de recul, le toit panoramique.
Cette série, des 139€ par mois et sans apport. Pendant les portes ouvertes du 16 au 18 janvier.
Ah, waouh ! Citadine électrique T03, c'est ça la bonne résolution. Leapmotor.
Lancez-vous. LLD 36 mois, 30 000 km, prime Certinergie 360 euros déduite pour une T039 hors option. Réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu'au 31 janvier si acceptation crédit part. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Je suis ta beauté intérieure. Que souhaites-tu ?
Je voudrais une bibliothèque jusqu'au plafond pour ranger mes beaux livres et tous mes objets déco.
Oui.
Sur mesure, multicolore, avec mon bureau intégré et puis aussi des LED. C'est possible ?
Bien sûr que c'est possible. Jusqu'au 14 février et exclusivement chez Arkéa.
Profitez d'une remise de moins 20% sur tous vos projets d'aménagement et laissez enfin s'exprimer votre beauté intérieure. Moins 20% chez Arkéa, c'est du sur-mesure pour vous. Voir liste des magasins participants sur arkéa.fr.
Dans la vie, vous pouvez choisir le changement. Tester cette nouvelle coupe de cheveux un peu folle. Rejoindre vos amis au café juste après et attendre qu'ils complimentent. Attendre encore. Ou vous pouvez choisir une Volkswagen, parce que là, vous ne passerez pas inaperçu. Volkswagen, enfin une décision facile à prendre. Pendant les instants Volkswagen, le nouveau T-Roc est à partir de 229 euros par mois.
Nouveau T-Roc 9 LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 4 000 euros, puis 36 loyers de 229 euros si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 31 janvier, conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Grand frais.
Oui, c'est le guide de haute montagne. Dites, pour l'ascension du sommet, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont un yaourt grec 0% ultra onctueux, un régal. Bon, après c'est simple, hein, dès que vous pouvez plus monter, bah c'est que vous y êtes.
Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à lundi, le pot de 500 grammes de yaourt grec 0% de matière grasse est à 1,99€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand Frais,
le meilleur marché.
Soit 3,98€ le kilo, fabriqué en Grèce. Pour votre santé, bougez plus.
Europe 1 et CNews, 9h-10h, l'heure des pros.
Pascal Pro.
Il est 9h30 et on est tellement heureux de recevoir Marie-Estelle Dupont que vous pouvez écouter tous les jours à 15h avec Romain Desarts pour une émission formidable qui renseigne, qui apprend, qui permet de mieux comprendre les uns et les autres, les Français, comment sont-ils, pourquoi agissent-ils comme ça et tous les jours avec Romain. Vous formez un duo formidable tous les deux parce qu'on apprend plein de choses sur des questions psychologiques, mais pas que. Marie-Estelle Dupont, bonjour.
Bonjour Pascal, merci. Effectivement, bah là, il y a pas mal de sujets de la psychologie individuelle ou collective. On a parlé du wokisme cette semaine.
Alors, on parlera de la natalité parce que on vous en a parlé hier. On fait moins d'enfants et il y a plus de décès aujourd'hui en France que de naissances. C'est la première fois depuis 1944. Et c'est intéressant parce que, comme tous les choix deviennent idéologiques en France, bah, la Croix, ce matin, la une de la Croix, et vous allez le voir à l'instant, et je le dis pour nos amis d'Europe 1, c'est d'ailleurs celle d'hier, la natalité en berne, mais au fond, c'est pas grave parce qu'il faut faire appel à l'immigration. C'est le choix de la Croix, la natalité en berne. Il dit que c'est pas très grave, donc c'est un choix idéologique. On en parlera dans quelques instants. On va terminer sur l'aspect justice, judiciaire. Effectivement, et avec cette information, le procureur général d'Aix-en-Provence qui a expliqué cette année que sa cour d'appel allait remettre en liberté 19 accusés criminels. Et vous avez expliqué comment on pourrait, évidemment, faire avec le plaidé coupable qui pourrait aider les magistrats. Mais c'est un problème numéro un que la lenteur de la justice et les moyens de la justice et la formation des magistrats. Nous sommes d'accord ?
Oui, absolument.
Bon. Vous savez, sur les moyens, par exemple, 1 000 euros de dépenses publiques aujourd'hui, il y a 5 euros qui va à la justice. Ouais. Sur 1 000 euros de dépenses publiques, 5 euros pour la justice.
Ouais, c'est incroyable. Je trouve que c'est la meilleure manière de signifier l'argent public, ce que vous venez de dire. Moi, je crois que c'était même 4 euros, pour tout vous dire.
Ouais, c'est entre 4 et 5.
Et dans le même temps, il y a 280 euros qui partent pour les retraites.
Oui.
Bon, bah c'est toujours la même chose.
Les sociales, largement, sont...
Oui. C'est toujours pour la même chose. Pour un État, il n'y a que deux possibilités. Soit tu prends beaucoup et tu redistribues beaucoup, soit tu prends peu et tu redistribues peu. Et nous, peut-être qu'on prend trop et qu'on redistribue trop. Et qu'il faudrait justement, sur le régalien, investir ou financer davantage, que ce soit l'école, la justice, etc. Autre chose, Pascal Pierre Garbarini, je vous ai cité cette semaine deux ou trois fois, parce que Alain Orsoni est décédé. Et on va écouter la... maire de son village de Véro, qui s'appelle Marie-France Orsoni, qui n'a pas de rapport d'ailleurs avec Alain Orsoni. Et après, je vous ai demandé de venir lundi, lorsqu'on a appris cette information, et vous m'avez dit, moi je peux pas, parce qu'effectivement, vous avez été engagé dans la défense de ceux qui en voulaient, si j'ai bien compris, à Alain Orsoni.
Ben, non, moi, il y a deux choses. D'abord, je respecte le deuil de la famille. Donc je n'ai pas à commenter, déjà ça c'est à titre personnel. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai, moi j'ai été l'avocat des personnes qui ont été soupçonnées et puis ensuite condamnées, bien qu'il n'y ait les faits, d'avoir préparé une tentative d'assassinat sur M. Orsoni. Donc moi, je suis tenu par le secret professionnel, d'une part, et en plus, j'ai un conflit d'intérêts, donc je n'ai pas commenté. Et puis surtout, je respecte le deuil de la famille. En revanche, vous savez, j'ai bien évidemment, toute mort d'un homme rend triste, hein, surtout dans les conditions dans lesquelles elles sont intervenues. Et en revanche, j'ai lu beaucoup de presse et écouté des personnes qui, parce qu'elles ont mangé 4 morceaux de figatelle et un plat de broche, se permettent d'être les Lévi-Strauss du Café du Commerce sur la société corse, ce qui m'a particulièrement mis en colère. Parce que vous savez, la Corse, en fait, pourquoi la Corse, elle est complexe? Parce que, je le dis souvent ici, on a des valeurs. Les valeurs qu'on connaît, il y a la solidarité, la générosité, le sens de la famille, la foi chrétienne, etc. L'honneur. Mais dans l'honneur, il y a l'autre face. L'autre face, elle est sombre. Parce que la Corse, on ne peut pas la comprendre. Pour la comprendre, il faut la vivre. Parce que la Corse, c'est également des larmes et du sang. Parce que c'est une histoire. C'est une histoire d'un peuple qui s'est toujours battu, d'accord, qui a été souvent envahi, mais qui n'a jamais été conquis. Et avec une tradition d'honneur également, pourquoi? Parce que dans les valeurs, il y a l'amitié. Et quand dans l'amitié, il y a des trahisons, les trahisons, on les paie cher, on les paie par le sang. Voilà. Alors après, on peut dire, je justifie rien, attention, hein. C'est pas une justification.
J'allais vous dire, certains vont entendre dans vos paroles une forme d'excuse.
Il y a aucune, peut se passer. Il y a aucune excuse. Simplement, on est comme on est. Aujourd'hui, la vendetta, la vengeance, et attention, hein, je ne, il y a aucun lien entre ce que je dis et avec l'assassinat de Monsieur Orsoni. Hein. C'est, je parle d'une manière générale et je réponds à tous ces personnes qui se sont, parce qu'elles ont écrit 3 livres, qui se sentent investies d'avoir compris le peuple corse. Vous savez, ok, bravo, très bien. Ok, elles mettent des CD de polyphonie et elles pensent que ça y est, elles ont compris comment est l'âme corse. Pas de problème. Si. Mais ce que je veux dire, c'est que vous savez, moi, j'avais rencontré quelqu'un qui était très impliqué et qui disait la chose suivante. Il m'a dit, mais maître, la vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. Il se mange congelé. C'est-à-dire que les trahisons d'un jour, et si en plus vous avez touché le sang, eh ben vous les payez. C'est comme ça, voilà. Alors, j'aime pas être fataliste, mais c'est un peuple rude, le peuple corse. C'est un peuple qui a souffert, qui souffre encore. On ne sait pas encore ce qui se passe dans les villages, quand je veux dire de la dureté des vies. D'accord. L'été, on vient, c'est une carte postale, il fait très très beau, les gens sont accueillants, voilà, on se sent chez soi, etc. Mais ensuite, il y a la dureté de la vie. Et les trahisons, ça passe pas. Parce que le sens de l'amitié, il est tellement fort que, obligatoirement, on ne peut pas le truc. Et dernier point.
Monsieur Simeoni a dit que c'est il est arrivé sur le chapitre de la mafia, hein.
Oui, mais Monsieur Simeoni,
il a dit c'est un esprit mafieux.
Oui, il est en campagne électorale, on le laisse à ses campagnes, et puis on verra le score qu'il fera, Monsieur Simeoni. Monsieur Simeoni, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir, et vous allez faire un micro-trottoir en Corse, et vous allez voir ce qu'on va vous dire de Monsieur Simeoni. Mais je ferme la parenthèse.
Bon.
Mais,
s'il nous écoute, il peut répondre, évidemment.
Il peut répondre, bien évidemment, il n'y a pas de souci.
Qui est le président de l'Assemblée
territoriale de Corse.
Gilles Simeoni.
Ce que je veux dire également, c'est que sur la mafia, justement, donc c'est la mafia, etc. Ce qui est très, très, très curieux, c'est que vous avez un ancien policier, un policier qui est également historien, qui fait un livre en disant la mafia en Corse, c'est pas la définition de la mafia. Il y a des bandes criminelles, mais il n'y a pas d'horizontalité. C'est une horizontalité et pas de verticalité. Voilà ce qu'il dit. Et surtout, on s'aperçoit, et ça c'est le travail de la police et de la justice, il n'y a pas de problème. Ils font des listes avec des noms. En disant telle bande criminelle, il y a 15 personnes. Ok, il y a des gens qui ont le profil, hein, d'être sur les listes. Il y en a d'autres qui l'ont pas. Mais ces listes, elles fuitent. quand elle fuit, vous pensez que nous, on est des lecteurs non avisés. Mais ceux qui sont...
J'entends.
Voilà. Vous avez tout compris.
Bon, écoutons Marie-France Orsoni, qui a pris la parole dans le village de Véro, là où est décédé Anna Orsoni.
Tout d'abord, respect pour les familles. Parce qu'il faut respecter ce deuil, ces deuils. Et puis, la sidération. Parce qu'un crime, un meurtre dans un... On dit en Corse, au Campouzante. C'est un lieu saint. Donc ça, c'est de l'inédit. On n'a jamais vu ça en Corse. Nos valeurs... s'envole. C'est de la tristesse. De la tristesse et peut-être un peu de colère aussi.
Pourquoi ?
Mais parce que c'est, je vous ai déjà dit, c'est inédit et on ne veut plus voir ça.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce sujet. Marie-Estelle Dupont est donc avec nous. Elle est psychologue, elle est auteure également. Vous pouvez la retrouver tous les jours sur l'antenne d'Europe 1 avec Romain Desarbes. Et sur la natalité, effectivement, cette natalité en baisse. Alors, depuis hier, tout le monde donne son avis. Alors, certains disent que c'est pour des problèmes économiques, c'est pour des problèmes, psychologiques. C'est-à-dire que ces jeunes gens, ce qu'on peut comprendre, sont inquiets de l'avenir. Ça peut être pour des problèmes écologiques. Il y a de multiples raisons qui expliqueraient. Quel est votre sentiment et comment vous analysez cela ?
Quand on a été auditionné à l'Assemblée avec Aziz Lecor, on a rappelé que justement l'argument économique, et d'ailleurs Olivier Rey le dit dans son récent essai d'effécondité, n'est en réalité pas du tout la véritable raison. D'ailleurs les peuples, enfin les pays qui font plus d'enfants ne sont pas des pays particulièrement riches. Ce sont des pays qui sont riches d'autre chose, ils sont riches d'une espérance. C'est-à-dire qu'ils croient en l'avenir. Même si le présent est difficile, ils croient en l'avenir. Nous, on a quand même un narratif de crise depuis 40 ans où les jeunes sont bercés dans l'idée que il y a une crise écologique, il y a une crise économique, il y a une crise géopolitique, il y a une crise institutionnelle, c'est-à-dire que tout est foutu et quand il y a un virus, sors pas de chez toi, tu vas tuer papy et mamie. Donc on les a pas tellement aidés à se projeter avec joie dans l'avenir et dans le futur. Ensuite, nous sommes aussi les enfants d'une idéologie extrêmement matérialiste, d'une anthropologie qui est individualiste, matérialiste, où finalement le sacré de l'existence n'existe plus. Narcisse est tout-puissant. La transmission et la filiation, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que quand même, un enfant, ça met des limites au fait de jouir sans entrave. Donc c'est un peu ennuyeux, parce qu'il va falloir que je me verticalise, il va falloir que je me responsabilise. Et dans une société où on a tout horizontalisé, où on a différencié les sexes, les générations, les cultures, on le voit bien, en disant on fait plus de bébés, mais il y a des immigrés, donc les cultures sont... On peut les déraciner comme ça, ça n'a pas d'incidence psychique sur les individus. Donc, on voit bien que cette anthropologie très matérialiste, elle n'incite pas à se projeter dans le lien. Et ça, c'est depuis les années 70. Ensuite, vous ajoutez effectivement un facteur qui est qu'il y a une baisse du désir d'enfant, mais il y a aussi tous les couples et toutes les jeunes femmes qui désirent un enfant et qui n'accouchent pas. Donc soit elles n'accouchent pas parce qu'elles ne tombent pas enceintes ou elles font des fausses couches, là c'est un facteur médical de baisse de la fertilité, et il a pas mal d'origine, ça peut être la fertilité de l'homme, ça peut être des fausses couches chez la femme, etc., etc. Il y a tout un tas de facteurs. Et puis il y a aussi ces couples qui aimeraient un enfant, qui sont probablement fertiles, et puis qui passent pas le pas. Et c'est là-dessus, je le disais à l'Assemblée nationale, c'est là-dessus qu'on peut agir, et c'est probablement pas... en allongeant le congé paternité qu'on va avoir le bon levier. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, un jeune couple dans une grande ville qui veut accueillir un bébé, évidemment, il n'a pas le même pouvoir d'achat que nos parents il y a 40 ans. Un 4 pièces à Paris, ça coûte une fortune. Mais ce n'est pas ça qu'ils disent les jeunes. Ils disent pas que c'est principalement l'aspect financier monétaire. Ils disent que c'est notre solitude. C'est-à-dire que le fait d'avoir aussi été dans un narcissisme et un individualisme absolu, ça a fracturé les générations. Et donc, les jeunes couples se sentent isolés. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais où, en fait, ma belle-sœur, ma mère, ma tante, où est-ce que vont être les liens pour nous aider au début avec ce bébé, nous transmettre des connaissances, nous le garder de temps en temps. Donc ça, ce facteur-là, il n'est pas économique, mais en fait, c'est du maillage social qui n'est plus là. Et les jeunes mères, parfois, c'est moi en consultation qui suis psychologue et pas médecin, qui leur dit, vous avez besoin de repos, madame. Est-ce que vous n'avez pas une voisine qui peut vous apporter un plat, etc., pour que vous soyez soulagée? C'est-à-dire que les médecins, parfois, n'informent plus les patientes enceintes qu'elles vont avoir besoin de repos. Et comme il y a quand même une idéologie chez certaines féministes, pas toutes les féministes, mais il y a une branche du féminisme qui a expliqué aux femmes que pour être libre, émancipée, accomplie et heureuse, il fallait qu'elle soit des hommes comme les autres. Il est évident que ça fonctionne tant que vous n'avez pas d'enfant. À l'instant où vous êtes mère, ça ne fonctionne plus. Alors... Non, mais je voudrais finir sur ce point. Il y a une branche du féminisme qui divise la femme contre elle-même, en lui disant c'est la maternité l'esclavage et c'est l'open space la liberté. Mais c'est pas vrai, il y a tout un tas de femmes qui sont heureuses d'être dans ce lien d'attachement avec leurs petits, et il serait plus intelligent de rémunérer les mères qui le souhaitent pour faire ce travail qui a une valeur inestimable, plutôt que de dire il faut plus de place en crèche, ou de toute façon vous allez déposer votre bébé dans un endroit où il y a un adulte pour 8 enfants, donc c'est de la maltraitance systémique. Alors qu'il y a des femmes qui sont très heureuses de...
Je comprends pas, moi, qu'il n'y ait pas de crèche dans les entreprises, mais paraît-il...
Alors, ça fait partie de ce que j'ai dit dans l'audition.
Mais paraît-il, c'est tellement compliqué de monter une crèche pour des raisons sanitaires, et avec des raisons de, comment dire, d'organisation.
Alors, je crois qu'on a les opinions de sévices. Je crois qu'on a les opinions de sévices et qu'on dit que c'est compliqué quand on n'a pas envie de faire le boulot.
Et dans une grande entreprise, par exemple...
Bah ici, ce on serait, pourrait avoir...
Même pour faire venir... des salariés, si vous leur proposez ce service, qu'il y a dans l'entreprise une crèche, parce qu'il n'y a pas que... Ça concernerait, je pense, assez peu...
Vous imaginez le temps de transport gagné ?
Oui, et ça concernerait assez peu de personnes. J'imagine, dans une entreprise, une très grande entreprise, combien de jeunes femmes ont un enfant entre 0 et 3 ans ?
Alors d'ailleurs, quand j'ai invité Lise Le Corse dans Ici, on en parlait, elle est venue avec son bébé.
Je pourrais Richard faire deux remarques au fond de boutade, mais les boutades parfois sont très sérieuses. La première, c'est dans les années 70-80, chez les bobos, on disait qu'il ne fallait plus porter de slip les hommes, de slip serré, parce que ça rendait infertile. D'où le succès des... Non, je vous assure, il y a des articles de Nouvel Op, non, je ne plaisante pas.
C'est vrai, c'est...
Bon. Tu témoignes ?
Non, pas, voilà. Je suis pas devenu infertile.
Et alors, c'est deuxièmement, le slip qui a rendu... les hommes n'ont pas... Enfin bon,
je ne sais rien. Deuxièmement, je pense peut-être plus sérieusement que les couples, maintenant, ont peur de l'enfant. Oui. À savoir qu'on a instauré le culte de l'enfant roi, et on s'aperçoit que l'enfant roi se transforme en nazi. C'est-à-dire que...
Je retire ce qui a été dit. Donc, en tyran. L'enfant roi est un tyran. Je préfère.
Voilà, il se retrouve en Mola, en
Attendez, écoutez, pensez à moi, bon sang de bois.
Je vais répondre à ça après, c'est un point très important.
En tyran. Mais ça, c'est très important.
J'ai une question pour vous. Est-ce que, vous avez parlé de la question économique, est-ce que selon vous, les pays qui pratiquent des politiques natalistes et toutes les politiques publiques qui sont mises en place, est-ce que ça peut fonctionner sur le long terme pour encourager les gens à avoir des enfants ou pas spécialement ? Parce que c'est quand même un argument qui est brandi régulièrement. Vous disiez que ce n'était pas le principal et qu'il y avait des pays beaucoup moins fortunés qui avaient beaucoup plus d'enfants. Mais est-ce que vous pensez qu'une vraie politique nataliste pourrait fonctionner ?
Par exemple, sur la fiscalité, vous avez un levier. En Hongrie,
Marie-Estelle Dupont.
À partir du troisième ou quatrième enfant, en Hongrie, le couple ne paye plus d'impôts sur le revenu.
Et c'est un exemple, mais en Hongrie, pour l'instant, c'est ça.
À un moment donné, nos gentils technocrates qui sont tout le temps dans les chiffres vont devoir comprendre que payer les retraites, faire des économies sur la santé mentale, c'est avoir des enfants et des enfants en bonne santé
psychique. Alors, d'accord pour ça, mais répondez sur les... Moi, j'aime bien, Richard Millet dit « Les parents ont peur des enfants ». Je trouve que cette idée est très intéressante.
Alors, merci d'avoir soulevé ce point, parce que j'ai pas eu le temps de développer l'argument, qui est aussi toutes les injonctions paradoxales qui ont pesé sur les parents, et notamment la culpabilisation qu'il y a eu, comme on a tout horizontalisé, que le prof est devenu un animateur, qu'il est interdit d'interdire, etc., etc., que la moindre contrariété pourrait être assimilée à une violence éducative chez certains. Je dis pas du tout qu'il faut pas mettre fin à la pédagogie noire et aux châtiments corporels qui sont une horreur et qui sont une justification de gens immatures et caractériels qui se lâchent sur les enfants. Mais l'enfant a besoin de l'interdit. C'est-à-dire que c'est un dû à l'enfant qui vient au monde, l'interdit. Et évidemment que quand on n'a plus le droit de dire à un enfant, tu enquiquines tout le monde autour de la table, donc tu cesses immédiatement ou tu vas sortir du groupe, parce que quand tu seras une grande personne, si tu perturbes le groupe, tu vas sortir du groupe. Mais l'enfant est insupportable, les parents sont en burn-out et on veut surtout pas de deuxième. Alors moi j'ai pris l'avion il y a pas longtemps et c'était drôle parce que je voyais un couple, ils étaient deux, ils étaient totalement dépassés par un enfant. Ils me regardaient, ils me jetaient des regards haineux parce que j'étais en train de lire entre mes jumeaux qui coloriaient, qui dessinaient. Et mes jumeaux c'est des petits garçons de 5 ans, donc ils bougent. Mais en fait, quand vous contenez l'enfant par la tendresse d'une part, par l'autorité d'autre part, qui n'est pas de l'autoritarisme et qui n'est pas des, qui c'est pas décrit l'autorité. Évidemment, vous avez plus envie d'avoir des enfants.
Dernière chose, parce que je sais que
l'éducation trop bienveillante parfois, on a mélangé.
Faut que ce soit bienveillant.
On a mélangé.
Faut que ce soit bienveillant, mais
non, mais qui veut une éducation malveillante? Je veux dire, c'est une évidence.
Bienveillant. Dernière chose, la Cour de cassation a interdit effectivement aux enfants de, aux parents. Aux enfants de gifler leurs parents, aux parents de gifler des enfants. Non, mais ce qui est la moindre des choses. Moi, il me semble qu'on ne doit pas gifler. Alors, ça renvoie au livre de Pascal Pierre Garbarini, parce que la dernière fois, on en avait parlé. Son grand-père lui mettait, mais il y avait un ancien mot dans le temps qui était très trivial, c'était des torgnoles. Plus personne ne.
Bon. Ceinture.
Mais les coups qu'il a pris, je trouve ça invraisemblable. Bon. Et effectivement, le monde a changé. On ne touche pas un enfant, là. Vous êtes d'accord avec ça? On ne donne pas une claque à un enfant.
Il est heureux qu'on ne dise plus, il a pris une torgnole et il n'est pas mort. Heureusement qu'on n'en est plus à ce stade.
Mais vous êtes d'accord? Vous validez l'idée?
Totalement le fait
qu'on ne touche pas.
Vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Antimère. Évidemment que tout ce qui relève de l'humiliation, ça fait le lit de la violence. Parce qu'un enfant qui a été humilié, plus tard, c'est un adulte qui sera violent vis-à-vis des autres ou violent vis-à-vis de lui-même. Donc les humiliations, les châtiments corporels, les insultes, les fessées, les gifles, ça n'est que la preuve que l'adulte est immature et qu'il est incapable de se contenir. Donc bien évidemment que l'autorité n'est pas l'autoritarisme. Mais vous savez, parfois, un regard, un changement de ton...
Oui. Et par exemple, j'avais un père qui me disait hier, moi j'ai des garçons, ils sont absolument insupportables, et ça arrive une fois par an, c'est la douche froide. Voilà, je le mets pour le calmer sur la douche froide.
Moi j'ai les trois garçons, ils sont toniques.
Oui. Non mais ça, par exemple, vous validez ou pas? Jamais.
Jamais.
Et vous ne recommandez pas?
Je ne suis pas juge.
Non mais quelqu'un qui viendrait en consultation qui vous dirait cela.
C'est très bien qu'on interdise les châtiments corporels parce que vraiment, et je l'ai dit pendant le Covid, la quantité de violence intrafamiliale, c'est une horreur. En revanche, il ne faudrait pas que ce soit un moyen pour les politiques de dire regardez ailleurs parce que notre bilan est catastrophique sur nos véritables missions. Et avant d'intruser l'intime, l'État a des missions.
La Cour de cassation a écarté hier, je rappelle, l'existence d'un droit de correction parentale pouvant justifier des violences éducatives sur des enfants. J'imagine, Thomas Hill, vous qui avez des enfants, que vous êtes un père moderne et que jamais... vous êtes écrasé des arbres.
Je voulais faire la transition.
Romain, comme vous dites, j'imagine que vous êtes un père moderne, cher Thomas Hill, et modèle,
évidemment.
Et que jamais vous n'avez donné une gifle à l'un de vos enfants.
Non, je ne peux pas ça. Non.
Mais vous avez raison.
Dites-nous, vous êtes un cachotier, Romain.
Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux?
Thomas a eu la gentillesse de m'inviter pour parler, je pense, de la matinale, de CNews, et puis également de l'émission avec Marie-Estelle, que vous embrassez de ma part. Pascal, évidemment, qui est sur votre plateau, de Marie-Estelle
et
Dupont, l'après-midi sur Europe
1. Je trouve que vous faites un duo formidable, parce que vous savez, Romain, poser les bonnes questions. Et vous savez, un truc que je recommande à tous les animateurs, c'est que vous ne coupez pas la parole.
J'essaye.
C'est ça qui est
J'écoute Marie-Estelle.
Ça, c'est vrai que vous êtes très à cheval là-dessus, Pascal. Ça, c'est
moi,
vraiment...
par exemple, jamais je n'interromps quelqu'un. Jamais.
Non, c'est important.
Jamais. Le programme en deux secondes parce qu'on est en retard.
Robin Desarbres et puis Thibaut de Montalembert qui va nous rejoindre aussi parce qu'il revient au théâtre. Voilà.
Bon, merci beaucoup, Marie-Estelle.
Merci, Pascal.
10h, 11h30, Europe 1.
Culture Média.
Thomas Hill.
Voilà, vous connaissez tout le programme. On se retrouve dans quelques minutes pour Culture Média qui démarre. A tout de suite sur Europe 1.
10h, 11h30, Culture Média sur Europe 1. Chez Orange, on sait qu'après... C'est sympa de continuer sur cette lancée. Jusqu'au 21 janvier, profitez de promos sur une large sélection de téléphones Samsung, dont 520 euros d'économie sur le Galaxy S25 Ultra, sans forfait, sans engagement. Orange est là. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine. 420 euros de remise immédiate et 100 euros de bonus reprise pour l'achat d'un Galaxy S25 Ultra. Conditions détaillées sur orange.fr.
En exclu, mon itinéraire pour trouver les meilleures affaires pendant les soldes.
Non, mais faut arrêter de se compliquer la vie. Une seule destination, les soldes Conforama. C'est jusqu'à moins 70% avec la deuxième des marques. Et avec la carte Confo Plus, tu as moins 10% supplémentaires sur le meuble et la déco déjà soldés. Pourquoi aller ailleurs ?
Valable selon date des soldes et dans la limite des stocks.
Envie de vous offrir la qualité allemande à prix Opel?
Yes, of course.
Une Corse avec Apple CarPlay et Android Auto?
Yes.
À partir de 15 900 euros et jusqu'à 8 ans de garantie spéciale offerte?
Yes.
Rendez-vous en concession pendant les portes ouvertes pour vous offrir Opel Corsa.
Yes.
Offre réservée aux particuliers sur Corsa édition 100 chevaux. 5000 euros déduits non cumulables jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant. Garantie spéciale Opel, détails sur opel.fr. IS égale oui. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Boulanger. Ok, à moi. Tu préfères parler de toi uniquement à la troisième personne?
Ok.
Ou utiliser au moins un adjectif médiéval dans chacune de tes phrases?
Il préfère les soldes boulanger, parbleu.
On préfère tous les soldes chez Boulanger. Des centaines de bons plans et le bon choix. Comme le lave-linge 8 kg Samsung fonction EcoBubble à 449 euros au lieu de 606,42. Et profitez de la livraison offerte. Boulanger, plaisir partagé. Jusqu'au 3 février, 15,42€ d'éco-participation. Conditions, boulanger.com.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prix maximum Certinergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Condition Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
Mais où peut-on trouver 60% de remise sur le deuxième lot de cookies granola?
Et si j'en achète, je peux même jouer au grand jeu?
Eh oui, ça c'est pépite. Jusqu'au 25 janvier, profitez de 60% de remise immédiate sur le deuxième lot de cookies granola Lux, soit 6,79€ les deux lots au lieu de 9,70€. Et avec cet achat, obtenez un ticket à gratter du grand jeu. Dans vos magasins U et sur Course U.
Le lot de deux paquets, soit 552 grammes, 6,15€ le kilo des deux. Valable pour un retrait jusqu'au 25 janvier. Conditions et règlements sur magasin-u.com.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
C'est les soldes chez But. Et le souci avec votre ensemble matelas sommier astucieux qui passe de 789,99€ à 399,99€, c'est qu'il faudra quand même en sortir tous les matins.
But. Et votre maison bat plus fort.
Dans la limite des stocks disponibles, conditions en magasin sur but.fr.
Et vous êtes bien sur Europe 1, la matinée se poursuit dans un instant juste après les infos de 10h. Vous retrouvez Thomas Hill et toute l'équipe de Culture Média qui vous accompagne jusqu'à 11h30 sur Europe 1. Belle matinée.
Europe 1. À tous ceux qui se réveillent deux fois, avec leur réveil puis avec leur café. À ceux qui prennent des doubles, ou qui en prennent deux, ou deux doubles. Et à ceux qui s'énervent s'ils n'ont pas leur café. Bah, ils s'énervent aussi avec, remarque. Le café, on ne peut pas faire sans. Alors, chez Intermarché, on vous rembourse 100% de vos achats en deux bons d'achat sur le rayon café, thé et infusion. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 18 janvier, des 30 euros d'achat et dans la limite de 40 euros d'achat réservés aux porteurs de la carte. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
En janvier, c'est décidé, je me remets au sport. Alors pour garder le rythme, il y a Kia Sportage, le SUV hybride offrant jusqu'à 945 km d'autonomie, un maximum d'espace et d'équipement. À partir de 359 euros par mois sans apport. Portes ouvertes ce week-end.
Kia Sportage, machin hybride, LLD 49 mois, 40 000 km. 49 loyers de 359 euros. Offre aux particuliers jusqu'au 31 janvier si accord Kia Finance. Cycle mixte WLTP avec un plein d'essence. Garantie 7 ans. Voir Kia.fr. Portes ouvertes ce week-end. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Kia. Du mouvement via l'inspiration.
Je sais pas, peut-être qu'en lui offrant des vacances à Tahiti, il commencerait à travailler.
Bonjour, je suis Ilona, conseillère à Acadomia. Et c'est ce que m'a confié ce papa qui pensait que son fils Léo manquait de motivation. Mais en l'écoutant, j'ai vite compris que le souci, c'était le rythme en classe, trop rapide pour lui. Avec ses parents, on a choisi la solution la plus adaptée. Un stage Acadomia à chaque période de vacances. Parfait pour reprendre les bases, réviser à fond et progresser rapidement. Résultat, plus 4 points de moyenne. Et chez Acadomia, c'est notre engagement depuis plus de 25 ans.
Acadomia, le plaisir de réussir.
Renseignez-vous sur acadomia.fr.
Skoda.
On peut décider de reprendre le sport, de moins sortir le soir, de manger plus sainement, ou même de ne prendre aucune résolution. Mais acheter une voiture sans avoir essayé de Skoda, ça, on ne peut pas.
Jusqu'au 31 janvier, profitez d'un minimum de 4000 euros d'équipement offert pour l'achat d'un véhicule neuf sur toute la gamme Skoda. Détails sur skoda.fr. Rendez-vous en concession pendant nos portes ouvertes ce week-end.
Skoda. Pensez à covoiturer.
Vous changez de voiture?
Vous achetez un récepteur de radio?
Demandez le DAB+.
Le DAB+, c'est la radio avec un son de qualité numérique.
Leclerc, bonjour.
Petit test avec votre Colin extra croustillant en promo.
Un test?
Attendez. Maman, t'as fait
c'est du poison.
Test concluant, impossible de résister. Et du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat de 2 paquets de Colin d'Alaska extra croustillant surgelé Findus, le troisième est offert.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Renault.
Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride e-tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, open air link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence, donnez WLTP en option selon version. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault.
Entendez !
Daniel Balavoine.
Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère.
Une voix, une liberté.
Un destin extraordinaire.
Il était déjà le modèle d'une manière de vivre et d'une manière de chanter qui était très particulière.
Avec Europe 1, découvrez la vie hors norme de Daniel Balavoine.
Avec un témoignage inédit de son frère Guy et les archives exceptionnelles de la radio.
Je le ressens comme la possibilité de pouvoir continuer à faire ce que j'aime, dans la bonne humeur.
Destins extraordinaires, Daniel Balavoine, raconté par Omblin Roche.
Un podcast à écouter dès maintenant sur le site et l'application Europe 1.
Il est bientôt 10h sur Europe 1. Et juste avant Culture Média, les infos avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Les premiers militaires français sont arrivés au Groenland. Des chasseurs alpins qui participent à une mission